Cécile Bigot de Kayser, bonjour.
Bonjour.
Préfète des Hautes-Alpes, tout d'abord, commençons sur les rails avec cette première question. Comment va-t-on régler un jour la ligne, la question du train entre Grenoble et Gap? Ce mardi devait se tenir une réunion. Alors, côté Isère, elle a été annulée au dernier moment par le préfet, par votre homologue isérois. Selon le collectif de l'Étoile ferroviaire de Veynes, le gouvernement dit aujourd'hui ne pas être en mesure de décider. Pourquoi? Vous qui avez justement accueilli les comités de pilotage, pourquoi aujourd'hui le gouvernement ne peut pas décider de lancer les travaux urgents en 2020, d'autant plus que SNCF Réseau a été très clair dans l'une de ses réponses. Il faut donner une réponse rapidement, au mois de novembre, c'est la date limite de réception des conventions pour lancer les travaux.
Alors deux choses. La première, le comité de pilotage qui était prévu aujourd'hui en Isère ne traitait pas de l'étoile de Veynes. Son objectif, c'était de traiter des travaux sur la ligne entre Grenoble et Lyon. Donc le sujet n'était pas du tout celui de l'étoile de Veynes et de la ligne Gap-Grenoble. Et ce comité de pilotage a été repoussé en accord entre le préfet et la région parce qu'il manquait des éléments qui permettaient qu'il se tienne de façon efficace. Mais je le redis, son sujet, c'était la ligne Grenoble-Lyon. Donc rien à voir avec le sujet Grenoble-Veynes. Deuxième chose, sur ce sujet de l'étoile de Veynes, d'abord je voudrais rappeler que l'étoile de Veynes, ce n'est pas que la ligne Gap-Grenoble. Il y a quatre lignes, hein. C'est Veynes-Aix-Marseille, Veynes-Gap-Briançon, Veynes-Valence et Veynes-Grenoble. L'État a largement montré son intérêt pour le ferroviaire. Il investit beaucoup avec les collectivités sur les différentes branches de cette étoile. En 2017, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits entre Gap et Briançon. Cette année, l'année prochaine, en 2021, il y aura de très gros travaux pour moderniser la ligne Gap-Valence, Veynes-Valence. La ministre des Transports a annoncé l'année dernière qu'elle pérennisait le train de nuit Paris-Briançon au-delà de 2020, qu'elle modernisait, que les rames en seraient modernisées. Et elle annoncera très prochainement avec le secrétaire d'État les solutions pour assurer la desserte de nuit de ce train entre Paris et Briançon pendant les travaux sur la ligne Veynes-Valence, parce que vous savez que c'est cette voie-là que le train de nuit emprunte.
Ce sera par bus.
Ce sera, la ministre dira quelles seront les solutions. Il y a le 26 septembre, le préfet de région a présidé une réunion où étaient réunies toutes les collectivités intéressées et SNCF Réseau pour examiner les différentes options possibles. Il y en a de divers types. Diverses options ont été envisagées. Et la ministre ou le secrétaire d'État annonceront très prochainement la solution qui sera retenue pour assurer la pérennité de cette desserte de nuit, sachant qu'il y a, je l'ai dit, une certitude absolue sur la poursuite de cette desserte de nuit à l'avenir.
Mais aujourd'hui, c'est bien la question de la pérennité qui se pose aujourd'hui. Les députés, que ce soit Pascal Boyer ou Joël Giraud, et le collectif notamment, font état d'un certain immobilisme. On ne trouve pas de réponse, notamment de la part de SNCF.
Alors, je le redis, il y a quatre lignes sur l'étoile de Veynes, plus la desserte de nuit. Donc, chaque chose arrive en son temps. Au fur et à mesure des années, il y a des travaux qui se font sur les différentes lignes. Il y a la question du train de nuit pendant les travaux. La prochaine étape, ce sera la ligne Gap-Grenoble, pour laquelle, dans le même temps, je pense que il y aura des annonces sur les solutions retenues pour assurer la desserte de nuit Paris-Briançon. Il y aura aussi des annonces faites sur les travaux de régénération de la ligne Gap-Grenoble.
Par rapport à cette facture, aujourd'hui, selon la députée Pascale Boyer, il faudrait trouver 118 millions d'euros. Alors 100 millions d'euros pour pérenniser la ligne dans sa totalité entre Gap et Grenoble, et 18 millions d'euros pour ces fameux travaux urgents qui concernent une portion vers Monnetier de Clermont. Est-ce que c'est ça aujourd'hui? On est bien à cette facture de 118 millions d'euros?
Alors moi, je ne pourrais pas vous donner les chiffres précis. En revanche, tout ce qui concerne les travaux de régénération de la ligne seront annoncés par la ministre ou le secrétaire d'État très prochainement.
Vous êtes confiante, vous, en tant que préfète des Hautes-Alpes, pour cette ligne entre Grenoble et Gap?
Mais moi, la ministre et le secrétaire d'État diront ce qu'ils souhaitent annoncer pour les travaux de régénération.
Un autre sujet, Madame la Préfète, c'est le loup. Le loup, on en a beaucoup entendu parler au mois de septembre, puisque la préfecture avait été le théâtre de la ferme de la colère pour la deuxième fois en plusieurs années. Aujourd'hui, les agriculteurs ont toujours cette même demande, c'est-à-dire la première, pouvoir armer des éleveurs qui ont le permis de chasse pour pouvoir effaroucher ou tirer le canidé. Et la deuxième demande, c'est de dire aujourd'hui, il faut qu'on puisse prélever du loup aussi en zone cœur de parc. À ces deux demandes, la réponse est toujours la même, c'est un non définitif.
La première demande, enfin, elle est satisfaite. Les éleveurs qui demandent la possibilité d'avoir un tir de défense, je les autorise effectivement à avoir le tir de défense. Et s'ils ont le permis de chasse, ils peuvent prélever eux-mêmes les loups en question. Ils ont la possibilité d'avoir des fusils, effectivement.
Sans contrainte. Je pense que c'est vraiment ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est sans contrainte administrative, sans demande particulière auprès de la préfecture pour pouvoir effectuer un tir.
Non, alors, pouvoir effectuer un tir, ça se demande. Mais je n'ai jamais refusé aucun tir de défense à un éleveur qui en fait la demande. Donc, vraiment, franchement, là, sur ce sujet-là, il n'y a pas de problème. N'importe quel éleveur qui veut un tir de défense, là, je les autorise systématiquement. Il y a déjà aujourd'hui plus de 500 éleveurs qui ont bénéficié d'un tir de défense. Je pense que c'est la très grande majorité. La deuxième question, c'est sera-t-il possible de faire des tirs de loups dans le cœur du parc? Sur ce sujet-là, qui concerne tous les parcs nationaux et pas spécifiquement celui des Écrins, dont une partie du cœur se situe dans les Hautes-Alpes, sur ce sujet-là, il y a un groupe de travail qui a été constitué au niveau national, qui s'est déjà réuni, qui doit aller le mois prochain sur le terrain dans le parc national des Cévennes. Et puis le groupe national loup se réunira fin novembre pour réexaminer cette question. C'est un sujet qui n'est pas simple, puisque les cœurs de parc sont des zones où la faune et la flore sauvage bénéficient d'une protection très forte. Et par ailleurs, ce qui est très important de souligner, c'est que au-delà de la question des tirs, quelle que soit la réponse, ne règle pas tout. On voit bien que dans l'ensemble du département, en dehors de la zone du cœur du parc des Écrins, les tirs sont possibles. Et malgré le prélèvement de loups, la prédation n'est pas ramenée à zéro. Il reste toujours un peu de prédation. C'est pour ça qu'il est très important, dans les cœurs de parc, comme partout ailleurs, mais tout particulièrement dans les cœurs de parc, d'examiner toutes les autres possibilités de protéger les élevages contre les attaques de loups. Et c'est là qu'il y a des travaux qui sont effectués dans les parcs, notamment les parcs des Écrins, pour identifier, qualifier, quantifier la vulnérabilité de chacun des alpages qui est dans le cœur de parc. Et il y a aussi beaucoup de travail approfondi qui est effectué dans le cadre des réflexions nationales sur tous les moyens de mieux protéger les élevages en cœur de parc et de pour financer des brigades de bergers mobiles, pour mettre en place plus de cabanes pastorales, pour mettre en œuvre des mesures d'effarouchement. Voilà, ceci pour dire que il y a la question du tir, mais il ne faut surtout pas résumer le sujet à cela. Il y a beaucoup d'autres moyens à développer, à approfondir, pour réduire la prédation, et tout particulièrement en cœur de parc.
Aujourd'hui, quel est le bilan dans les Hautes-Alpes de la prédation?
Elle continue à augmenter. Elle continue à augmenter. L'année dernière, il y a eu 1280 animaux qui ont été prédatés. Et cette année, en 2019, à fin de semaine dernière, au 18 octobre, on avait déjà 200 animaux prédatés de plus que l'année dernière à la même époque. Donc effectivement, ça continue, la prédation continue à croître. Néanmoins, en cœur de parc, c'est quand même une minorité. Il n'y a que 7% des animaux prédatés qui l'ont été en cœur de parc. Et le parc lui-même, cœur plus zone d'adhésion, ce n'est que 21% de la prédation dans l'ensemble du département. Donc il y a un sujet en cœur de parc qu'il faut traiter, mais l'essentiel de la prédation n'a pas lieu dans le cœur du parc.
Autre dossier, c'est le dossier RTE. Selon nos informations, les travaux vont reprendre ou ont repris. La demande en référé suspension ayant été rejetée. Vous confirmez ?
Oui, absolument. Vous vous souvenez qu'en août de l'année dernière, en août 2018, le tribunal administratif de Marseille avait annulé un arrêté préfectoral datant de 2015 qui autorisait par dérogation la destruction d'espèces protégées pour effectuer un certain nombre de travaux. J'ai tenu compte de l'arrêt du tribunal administratif de Marseille, de tous les éléments qu'il y avait dans cet arrêt du tribunal administratif. J'ai pris un nouvel arrêté début juillet de cette année, début juillet 2019. Les personnes qui s'opposent à cette ligne à très haute tension ont attaqué ce nouvel arrêté devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté leur demande de référé, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre l'application de cet arrêté. Donc, dans cette situation, l'arrêté que j'ai signé est toujours valable et permet la reprise des travaux. Je veux souligner qu'on a quand même 95% des pylônes qui sont posés, que l'essentiel des impacts sur l'environnement ont déjà été effectués, mais qu'en revanche, nous n'avons pas encore pu avoir la mise en œuvre complète des mesures compensatoires, parce que le projet doit vraiment être vu dans sa globalité, c'est-à-dire que c'est à la fois la mise en place d'une ligne à très haute tension, mais aussi la dépose d'anciennes lignes et l'enfouissement d'une partie de très haute tension, ce qui fait qu'au global, il y aura des centaines de kilomètres de lignes aériennes en moins, et les impacts sur l'environnement de cette ligne vont être compensés par un certain nombre de mesures compensatoires qui touchent aussi bien la faune, les chiroptères, les rapaces, que la flore, avec de la reconstitution de ripisylves, la remise en place de parcelles avec des cultures mellifères, etc. Et au moment où est arrivé l'arrêt du tribunal administratif de Marseille de 2018, 95% des pylônes étaient en place, mais toutes les mesures compensatoires n'étaient pas faites, et les lignes aériennes qui devaient être déposées ne l'étaient toujours pas. Donc on avait, d'une certaine façon, la double peine, l'ancienne ligne plus les nouveaux poteaux et pas les mesures compensatoires. Et je pense que ces éléments, ainsi que le fait que le nouvel arrêté ait pris en compte les éléments de la décision du tribunal administratif de l'année dernière, ont amené le juge des référés à considérer qu'il fallait laisser l'arrêté s'appliquer et donc les travaux reprendre. Donc effectivement, les travaux ont repris, la réalisation des mesures compensatoires peut se poursuivre et l'accompagnement financier des communes qui sont impactées par l'installation des nouveaux pylônes va pouvoir également se mettre en place.
Quelle garantie dans votre arrêté, quelle garantie est apportée notamment aux espèces protégées, parce que c'est ça aussi qui était pointé précédemment par Avenir Haute Durance, le fait qu'on détruisait des espèces protégées, de la faune et de la flore. Là, il y a des garanties qui sont amenées.
Alors, la question n'était pas tant de savoir si les espèces étaient, s'il y avait des garanties ou il n'y en avait pas. Ce qui manquait dans l'arrêté précédent, qui avait amené le tribunal administratif à l'annuler, c'était l'insuffisante démonstration que toutes les options avaient été étudiées, y compris des options alternatives au projet tel qu'il était construit et à l'impact sur les espèces protégées qu'il emportait. Donc, on a remis en évidence l'examen des solutions alternatives qui avait été effectué, réajusté, réactualisé la liste des espèces impactées, et surtout aussi bien mettre en évidence toutes les mesures compensatoires qui sont prévues, dont certaines sont déjà réalisées, mais d'autres doivent encore progresser pour arriver jusqu'au bout.
On arrive à la période hivernale, bien sûr, avec cette période va se poser la question de la migration aussi dans les Hautes-Alpes, de cette vague migratoire. Il y a quelques semaines en arrière, l'ONG Human Rights Watch a mis en exergue certains dysfonctionnements dans les Hautes-Alpes, des services notamment départementaux, et mettait en avant un harcèlement de la part de la police aux frontières vis-à-vis des militants pro-migrants ou encore de personnes qui venaient en aide aux migrants et de reconduites à la frontière de personnes se présentant comme mineurs non accompagnés. Vous avez lu ce rapport tout d'abord, Madame la Préfète ?
Oui, j'ai lu ce rapport, bien sûr, et d'ailleurs, nous avions reçu des membres de cette ONG lorsqu'ils étaient dans le département et qu'ils préparaient ce rapport. Alors, il y a trois choses dans ce que vous avez dit. Un certain nombre de choses qui s'adressent au service du conseil départemental. Donc là, c'est le département qui pourra y répondre. Et puis, vous avez dit deux choses. D'une part, qu'il y a des mineurs, des personnes qui se déclarent mineurs non accompagnés qui sont remises aux autorités italiennes, et d'autre part, que les forces de l'ordre harcèleraient les représentants, les militants qui viennent en aide aux migrants. Sur le premier point, je vais être absolument claire. Les autorités italiennes n'ont jamais accepté de reprendre en charge des personnes se déclarant mineurs non accompagnés. Ça, ils ne l'ont jamais accepté. Donc, dès lors qu'une personne se déclare mineure non accompagnée, évidemment, à chaque fois, parce que c'est la règle, quand une personne est interpellée, il y a un contact avec les autorités italiennes. Les autorités italiennes reprennent les personnes majeures, refusent systématiquement la reprise en charge des personnes qui se déclarent mineures, et toutes les personnes qui se déclarent mineures non accompagnées sont prises en charge par le conseil départemental. Là-dessus, c'est très, très, très clair.
Et par rapport à ce harcèlement de la police aux frontières, est-ce que vous avez pu parler avec les services ?
Alors, il faut bien être conscient de deux choses. Le droit est très clair. Les personnes qui apportent leur aide sur le territoire national, sans contrepartie, que ce soit une aide juridique, une aide à l'hébergement, à l'alimentation, ne sont absolument pas en infraction. Et personne ne va aller poser des problèmes à quelqu'un qui va sur le territoire français, sans contrepartie, aider un étranger en situation irrégulière. En revanche, apporter une aide moyennant contrepartie, c'est-à-dire en se faisant payer ou en faisant travailler gratuitement la personne, ça c'est condamnable. Et il est normal que les services de police et de gendarmerie s'assurent qu'il n'y ait pas de contrepartie. Et par ailleurs, l'aide au franchissement irrégulier de la frontière est une infraction. Et donc il est normal que les services de police et de la gendarmerie s'assurent qu'il n'y a pas d'aide au franchissement irrégulier. Mais ça se fait dans le cadre, de l'activité normale de contrôle, dans le respect des règles de déontologie qui s'imposent aux forces de l'ordre, et ça, on ne peut pas parler de harcèlement.
Mais en même temps, c'est très compliqué quand on voit une personne en détresse ou en péril, qu'on est du côté italien, de ne pas la transporter en France. On ne va pas forcément lui demander ses papiers. C'est aussi ce que mettent en avant les personnes qui sont venues en aide.
Je peux comprendre effectivement que dans cette situation, dans certaines situations, ce soit compliqué de ne pas venir en aide à quelqu'un, mais il n'empêche que le droit est très clair, la loi est claire, et ce sont des sujets qui ont été largement débattus lors des débats parlementaires de la loi sur l'immigration l'année dernière, et des sujets qui ont été aussi sur lesquels le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Il n'y a aucun doute sur le fait que aider quelqu'un à franchir de façon irrégulière la frontière est une infraction.
Les rapports entre les Hautes-Alpes et l'Italie se sont apaisés, parce qu'on se souvient qu'il y avait eu certaines déclarations de Matteo Salvini depuis.
Oui, les rapports se sont un peu décontractés, mais vous savez, il y avait des échanges compliqués entre le ministre de l'Intérieur italien précédent, Matteo Salvini, et les membres du gouvernement et le président de la République français. Mais sur le terrain, les agents de police ou de gendarmerie des deux côtés de la frontière ont toujours entretenu des relations, normales. Il y a toujours une collaboration efficace et les relations ont toujours été constructives et cordiales.
Dernier point, ce sera ma dernière question, la rocade de Gap. On en est où aujourd'hui? On sait que le maire de Gap vous a fait une demande, celle de mettre en service un peu plus tôt une portion de cette rocade.
Alors c'est vrai que c'est un chantier difficile, le chantier de la rocade de Gap. Il y a eu des désordres géologiques importants, des glissements de terrain dans le Val-de-Beaune, avec une expert judiciaire, un expert nommé par le tribunal administratif de Marseille qui est en cours. Il faut pouvoir résoudre ces désordres pour assurer la stabilité durable dans le temps de la rocade. Pour autant, effectivement, les services de l'ADREAL, les services de l'État en région qui pilotent ce projet, sont en train d'examiner, et ils le feront avec la commune, les services du département, la possibilité d'ouvrir plus tôt certains tronçons sur lesquels certains tronçons de la rocade sur lesquels les travaux sont très avancés.
La réponse sera donnée prochainement ?
Oui, je pense que la réponse sera donnée prochainement. Nous organiserons de toute façon un comité de pilotage de la rocade de Gap avant la fin de l'année.
Merci beaucoup, Madame la Préfète, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1.
Merci à vous.